Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est aujourd'hui la première émission de l'édition 2022 des Correspondances, une émission préparée et présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et nous nous retrouvons comme chaque année en direct de Manosque à l'occasion du Festival des Correspondances. Ce sera tous les jours à 10h avec des invités, des reportages et des interviews au cœur de la manifestation. Pour cette première émission, alors que le festival sera officiellement inauguré cet après-midi, nous avons deux invités, Evelyne Pravidlo pour les correspondances et Laetitia Fourquin qui dirige Éclat de Lire. Merci à toutes les deux d'être présentes en direct. Et puis nous aurons aussi deux interviews, nous entendrons les acteurs du labo de l'édition, bibliothécaires et enseignants qui présenteront l'opération et l'événement qui a lieu ce jeudi sur la place de l'hôtel de ville de Manosque. Nous entendrons aussi l'écrivain René Frény au sujet de son dernier roman « Minuit dans la ville des songes » et qui est sur scène jeudi lui aussi sur la place Marcel Pagnol. Bienvenue à Manosque pour les correspondances 2022. Et j'accueille notre première invitée, la co-directrice du festival, Evelyne Pravidlo. Bonjour Evelyne.
Bonjour François, bonjour Fréquence Mistral.
C'est un plaisir de vous recevoir car ça signifie pour nous et pour les manosquins, bien sûr, que nous entrons en correspondance. Évidemment.
Dès 17h, aujourd'hui, avec l'inauguration officielle sur la place de l'Hôtel de Ville, qui sera suivie de la première rencontre littéraire. Et nous avons le plaisir de recevoir Yegor Gran pour son livre Z comme zombie, publié aux éditions POL, et qui est un pamphlet, un vrai coup de gueule contre la propagande de Poutine.
Que l'on voit actuellement, malheureusement, à l'œuvre quasiment tous les jours.
En ce moment, en direct, d'ailleurs.
C'est vrai, en plus, en plus. Evelyne, un rappel d'abord pour ce festival. Que représentent les correspondances et quel est son objet?
Bientôt 25 ans. L'année prochaine, nous fêterons les 25 ans. Donc, bel âge. Est-ce que le festival est célibataire ou pas? Nous le saurons l'année prochaine. Mystère. C'est un plaisir. C'est devenu. Alors, je pense que Olivier Chaudançon et Olivier Adam ont créé ce festival en 1999. Je crois qu'ils ont vraiment inventé des formes différentes. C'était l'époque des salons du livre. Il y avait peu de festivals et ils ont vraiment créé un festival littéraire avec certainement deux particularités. La musique, de pouvoir proposer à des chanteurs et des musiciens de venir faire des concerts littéraires ou des lectures musicales, soit en mettant en chanson leur bibliothèque idéale, soit à partir d'un roman qu'ils accompagnaient de musique. Et l'autre particularité de ce festival qui est unique en France, je crois qu'on peut le dire, ce sont les écritoires. C'est-à-dire que Jean Lautret a créé des architectures éphémères dans lesquelles les gens rentrent, trouvent des cartes postales, des enveloppes, des stylos et peuvent écrire à qui ils veulent, administratifs, amis, famille, rupture, peu importe, gratuitement.
C'est-à-dire que l'envoi est gratuit, effectivement.
Oui, non, l'envoi est gratuit pour le public, mais oui. Évidemment pas pour le festival.
C'est vous qui assurez
l'affranchissement, bien sûr. Mais nous offrons...
Voilà, on peut dire, Evelyne, que Manosque change de visage pendant les correspondances, grâce aux écritoires, grâce aussi aux nombreuses rencontres qu'il y a sur les places de la ville, dans les rues également, et puis avec ces spectacles. C'est une animation exceptionnelle pour la ville.
Je pense, François, que vous pouvez encore mieux le dire que moi, mais il me semble, pour venir à Manosque régulièrement tout au long de l'année, qu'effectivement les 5 jours de septembre rendent la ville magnifiquement animée, joyeuse, du monde partout, sur les terrasses, dans les restaurants, dans les magasins de glace, chez le chocolatier, et puis les places, bien entendu, où se passent les rencontres littéraires. On peut dire qu'on fait carton plein, si je puis dire. Et puis, ce festival est devenu, osons, le premier festival littéraire de la rentrée.
Littéraire. Oui.
Donc, comme le dit Olivier, Manos, capitale littéraire pendant 5 jours.
Alors, vous l'avez rappelé, Olivier Chaudançon, Olivier Adam, ce sont les Oliviers qui ont créé tout cela au pays de Gémeaux et de la Provence, évidemment. Evelyne, peut-être plus en détail sur tout ce qui concerne l'âme de ce festival, autrement dit, les rencontres littéraires et les cartes blanches que vous donnez aux auteurs. C'est toujours un risque que vous prenez.
Un risque, je ne sais pas si c'est un grand risque, mais en tout cas, il y a un petit comité de programmation composé d'Olivier, Arnaud Catherine, Colombe Bonsen, Sylvie Balul et moi. Nous commençons à lire les livres qui feront les rayons des librairies de septembre à partir du mois d'avril. Donc nous lisons une centaine de livres en 2 mois à peu près. Et ce sont nos lectures qui nous guident, les livres que nous aimons, les livres où nous pensons d'ailleurs que ça fera, certains auront du succès, enfin qu'ils seront remarqués en tout cas. Mais ce qui nous guide, c'est nos plaisirs de lecture et nos choix sont guidés uniquement par ça. Bien sûr, nous faisons attention à l'équilibre des maisons d'édition. Est-ce que nous faisons attention à l'équilibre du genre, puisque maintenant il faut faire attention à ça? Eh bien, pas du tout, mais il se fait que cette année, nous recevons beaucoup plus de femmes écrivains que d'hommes. Les temps changent.
Et il y a même des femmes écrivains qui écrivent des choses sur les transgenres, et je pense notamment à Emmanuel Bayamaktan,
absolument,
qui a écrit un livre assez incroyable, La 13e heure, qui est programmé d'ailleurs dans le festival. On va tirer un coup de chapeau à une autre personne aussi qui vient d'être distinguée à Paris. C'était lundi. C'est Miguel Bonnefoy qui a obtenu le prix Patrimoine. Miguel sera en plateau demain sur notre antenne. Donc, on est ravis de le recevoir puisque c'est un résident,
Miguel a été résident des correspondances, enfin, a été résident à Manosque. Alors, je me souviens plus de l'année.
2018.
2018, bon, ça, il n'y a pas très très longtemps. Entre-temps, il a eu 2 petites filles. Il était lauréat de la Villa Médicis à Rome et il est revenu en France et s'est installé à Toulon et je crois que tout le monde l'attend avec impatience et sourire aux lèvres.
Comme tous les résidents qui sont passés à Manosque.
Absolument.
On pourrait en parler aussi avec Éclat de Lire qui a reçu pas mal de résidents. Mm-hmm. Ce sont les Alice Zénitaire, Pierre Ducrozet,
Sylvain Prudhomme,
etc. Enfin, des gens qui ont fait carrière,
Salomé
et qui
Kiner.
Font carrière. Et vous allez annoncer, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, on verra ce soir ou demain,
voilà.
Le prochain nom.
Oui, ce soir ou demain, pour l'instant on attend une réponse.
Et
je ne dirai rien de plus.
Le futur ou la future résident ou résidente est dans la programmation?
Oui.
Ah, il faudra chercher.
Alors, nous avons demandé à un auteur si ça l'intéressait, s'il était disponible. La personne à qui nous avons demandé fait partie de la liste des invités. Mais je ne sais pas.
Alors,
pas
il
de
faut
réponse
chercher,
encore.
On va cogiter, on va voir et puis on...
On fera des paris.
Peut-être. Mais les paris, c'est toujours très, très risqué. Vous l'avez dit aussi, alors il y a les spectacles, il y a les expositions aussi. Il y a beaucoup d'animations qui participent et des associations qui sont unies aux correspondants. C'est un travail à l'année.
C'est un travail à l'année qui est effectué alors à Manosque par Frédéric Vladislav dit Vlad, qui est le coordinateur général de l'événement et qui vit à Manosque et qui est en lien permanent avec toutes les associations culturelles de Manosque, bien sûr, et du territoire, puisque nous avons des liens avec la librairie Le Bleuet à Bannon, avec la librairie L'Arbousier à Oraison, avec le réseau des médiathèques aussi de l'agglomération, et pour vous faciliter la transition, avec l'association Éclat de Lire.
Oui, on va les entendre tout à l'heure, et c'est vrai qu'Éclat de Lire, c'est la porte à côté du bureau des
du
correspondances.
Bureau.
Donc bon, c'est assez naturel.
C'est une grande famille.
Exactement, et c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, tout le monde travaille ensemble vers un objectif commun, qui est d'amener de l'intelligence sur ce territoire. Voilà, je ferme la parenthèse. parce que ça n'est pas si fréquent en plus. Donc profitons-en, chers amis manosquins, profitez des correspondances et des spectacles et des dialogues, des rencontres qui sont sur le territoire et bien sûr des invités qui viennent. Vous avez parlé des bibliothécaires et des médiathécaires. J'aime pas ce terme.
Mais bon. Je ne sais pas ce qu'il faut dire maintenant. Oui. Je crois qu'on dit médiathécaire maintenant.
C'est pas très beau.
Les bibliothèques sont devenues des médiathèques.
Ouais, bon, enfin bref.
Bon, c'est pas très beau. On est d'accord.
Ces personnes qui travaillent en médiathèque ont préparé depuis plusieurs années déjà une opération assez incroyable qui s'appelle le Labo de l'édition. Et cette année, ils vont présenter ça dans un dispositif assez particulier. Ce sont des élèves de lycée de Manosque, alors aussi bien le lycée Félix Estrangon de Manosque et que l'école internationale, avec là des élèves anglophones. Donc c'est assez étonnant. Et ces gens-là, ces scolaires, donc ont travaillé pour se confronter avec des éditeurs. Je vous propose d'écouter cette interview au cœur du Labo de l'édition. C'est Nathanaël Coriol qui est aux manettes pour la médiathèque d'Herbès de Manosque. Et ils seront évidemment sur scène. Je crois que c'est jeudi aussi, Evelyne.
Jeudi à 11h et pour la première fois sur la place de l'Hôtel de Ville.
Ce qui est une reconnaissance extraordinaire formidable. De leur travail qui formidable. Se faisait d'habitude à place d'Herbès, un
avec
peu plus loin.
Uniquement le club des lecteurs. De la médiathèque et des correspondances. Et cette année, grâce à une professeure de français, et pardon parce que je n'ai pas son nom sous les yeux, grâce à une professeure du lycée Esclangon, voilà, elle a remué ciel et terre, elle a fait lire les lycéens, trois classes de son lycée, et puis le lycée international. Et donc ça, c'est une très très belle fierté. De recevoir une centaine de lycéens qui vont participer à ce vrai faux comité de lecture sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est une très très belle fierté.
Je vous propose d'écouter ce reportage au cœur du Labo de l'édition et on se retrouve tout de suite après. Nathanaël Coriol, vous êtes en charge du Labo de l'édition à la médiathèque d'Herbès. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors, c'est né il y a à peu près 9 ans. Avec des éditeurs que nous avions reçus en fait en tant que présentateurs de leur auteur, et ils ont décidé de nous confier des manuscrits. C'était avec le Nouvel Attila. Voici la première maison d'édition. Puis nous avons continué avec le Chemin de Fer, qui est une petite maison d'édition qui présente de courts romans avec des illustrations. Et depuis la deuxième année, nous avons un éditeur marseillais, les éditions du Typhon, les frères Torres. Et depuis 2 ans, nous avons eu la chance et le bonheur, et vraiment qui a renouvelé notre labo, d'avoir la collaboration d'Isabelle Truchet, qui est professeure au lycée d'Esclangon, et qui nous permet d'avoir des élèves qui réfléchissent en même temps que nous sur des manuscrits. Car qu'est-ce que c'est le labo de l'édition ? Ce sont des éditeurs qui nous donnent des manuscrits où on ne sait pas s'ils vont les éditer ou pas. Et à nous de nous mettre dans la peau d'un comité d'édition et de dire si on les éditerait.
Est-ce que les éditeurs en tiennent compte de vos remarques ?
Oui, ils en tiennent compte. Les premiers éditeurs pour lesquels nous avons collaboré, donc le Nouvel Attila, ils avaient notamment pris en compte nos remarques sur le titre. Et nous avons été très fiers car c'était Maria Majidi qui, pour Marx et la poupée, avait eu le Goncourt des lycéens. Et ils avaient tenu compte de nos remarques pour certaines choses à retravailler, et notamment pour le titre.
À vos côtés, vous l'avez cité tout à l'heure, Isabelle Truchet-Santi, vous êtes professeure au lycée Esclangon à Manosque, et vous travaillez également avec vos élèves, que vous connaissez à peine, puisque la rentrée a eu lieu il y a quelques jours, pour le labo de l'édition. Comment est-ce que ça fonctionne en classe ?
En classe, effectivement, nous avons très peu de temps. Nous avons à peu près 3 séances pour monter ce travail. On lance les manuscrits aux élèves, on leur envoie les manuscrits qu'ils doivent lire à la maison. On fait une petite présentation d'abord pour une petite lecture pour les appâter un petit peu. Et ensuite, très vite, à partir de leur prise de notes sur le carnet de lecture, ils travaillent en petits groupes. Et ils décident sur un certain nombre de critères. On essaye d'aller un petit peu au-delà du « j'aime ou je n'aime pas », justement, essayer de leur former un esprit critique, réfléchir à la construction du récit, le vocabulaire et les fautes de langue, parce que parfois on peut trouver aussi des manuscrits avec des fautes, la cohérence du récit, l'attachement au personnage, la présence du fantastique, s'il sert à créer une atmosphère ou si ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, on met en place un certain nombre de critères de manière à ce qu'ils puissent réellement dégager une opinion construite. Et puis ensuite, c'est une activité qui leur permet de travailler en petits groupes et de se connaître eux aussi. Et de libérer la parole, parce que les élèves aujourd'hui ont parfois du mal à exprimer réellement ce qu'ils ressentent, puisqu'on leur impose des lectures à l'école. Et là, c'est une activité qui leur permet, sans qu'il y ait d'enjeu pédagogique fort, de pouvoir réellement se définir comme lecteur.
On peut dire que c'est du scolaire et du non scolaire.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi pour nous le lancement du carnet du lecteur, qui est un outil nouveau, je dirais un outil vraiment littéraire dans la réforme du baccalauréat. C'est à la fois un outil scolaire qui permet de construire des fiches de lecture, d'avoir des souvenirs des lectures, mais aussi un outil plus personnel où ils peuvent écrire leurs impressions, faire un recueil de citations, une anthologie de citations, échanger. Ce projet, nous sommes plusieurs professeurs à le faire cette année. Je suis avec Madame Elal et Madame Lambert, qui sont aussi des collègues. Nous travaillons avec des classes de seconde et puis l'an dernier, je travaille avec des premières. Cette année, nous allons travailler avec les élèves de première qui ont choisi la spécialité HLP, c'est-à-dire humanité, littérature, philosophie, donc nos littéraires.
Ils auront en plus de ça l'immense bonheur de pouvoir rencontrer les éditeurs lors de la rencontre pendant les correspondances. À votre côté, votre collègue de l'école internationale, Laurent Guidon. Alors vous, vos élèves, ils sont anglophones. C'est une difficulté ?
Non, c'est pas une difficulté. Alors, ils sont anglophones. Hein. Pour eux, dans le cursus dans lequel je travaille, le français est langue étrangère. Ça correspond à la langue vivante 1 dans les autres établissements. Ils ont pour la plupart, sauf ceux qui sont arrivés très récemment en France, une bonne maîtrise du français, en tout cas une maîtrise suffisante pour pouvoir rentrer dans ces manuscrits. Alors comme ma collègue, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que la littérature, c'est plus un objet scolaire, c'est plus un objet de musée. Ça devient quelque chose de réel, ça devient quelque chose de concret. On peut l'apprendre, on peut la travailler. Lorsque Nathanaël Coriol et sa collègue sont venus dans ma classe pour présenter le projet, j'ai été surpris de voir comment les élèves ont pu donner des idées en disant « ben voilà, ce qui est important à voir, c'est ça, c'est le style, c'est pour quel public c'est, l'actualité, etc. » Donc ils ont déjà des idées, de critères, à quoi faire attention pour choisir un manuscrit.
Et vous allez également en profiter pour faire un petit peu le tour pendant les correspondances des écritoires et des expositions qui sont proposées à Manosque.
Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le labo de l'édition, c'est que là, c'est une proposition où vraiment des jeunes peuvent s'investir, puisqu'ils vont pouvoir donner leur avis. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand on leur a dit « vous devez parler sans filtre ». Si c'est nul, si vous trouvez ça nul, ce bouquin, il faut le dire. Et ça, ça leur plaît beaucoup. Donc j'espère aussi, par la journée du 22 septembre, du labo de l'édition aussi, en montant sur le site des correspondances, leur faire découvrir également les écritoires, des expos, et leur donner envie d'y retourner après par leurs propres moyens, de leurs propres ailes, y flâner le week-end.
Voilà des professeurs qui vont laisser d'excellents souvenirs à leurs élèves, je suppose, avec cette journée demain, lors des correspondances, le labo de l'édition, mais aussi les visites avec les classes. Notre deuxième invitée en plateau est Manouskine. Elle dirige l'association Presque Trentenaire Éclat de Lire. Bonjour Laetitia Fourquin.
Bonjour François.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet de l'association Éclat de Lire ?
Alors l'objet de l'association Éclat de Lire, il est assez simple, c'est de partager, de développer le goût de la lecture et du livre avec le jeune public, des bébés jusqu'aux jeunes adultes.
Comment ça des bébés, expliquez-moi.
Eh bien, nous allons, alors on a eu une petite coupure avec le Covid, mais ça c'est pour tout le monde. Nous allons à l'hôpital de Manosque, l'hôpital intercommunal, en maternité et aussi en pédiatrie, pour prendre contact d'abord avec des jeunes parents, pour leur dire combien il est précieux et possible de partager la lecture avec leur enfant dès sa naissance. et puis ensuite proposer éventuellement une petite lecture de bienvenue au bébé.
Et comment est-ce que c'est reçu dans ce cas-là, effectivement, que d'aller à la maternité, un endroit particulier d'une famille, souvent plus pour un premier enfant, et c'est assez compliqué, de dire, tiens, en plus, mais vous allez être parent, il y a déjà un chamboulement qui arrive dans votre famille, mais n'oubliez pas les livres. Comment vous arrivez à faire passer ce message ?
Alors, c'est une intervention qu'on fait avec beaucoup de délicatesse, parce qu'effectivement, c'est un moment à la fois intime et fragile, la naissance d'un enfant. Donc, on y va à pas de souris dans les chambres. Dans les chambres, on veut bien nous recevoir. Mais souvent, les personnes sont un peu perplexes et finissent pratiquement la larme à l'œil une fois qu'on a lu une histoire à leur bébé. Parce qu'il se passe déjà quelque chose avec la musique des mots. Et ça ouvre vraiment... On sent vraiment que les parents sont touchés, se disent « Ah oui, c'est possible ». Et puis on a aussi une opération avec l'Association pour la maternité de Manos qui est dans cette logique-là, puisqu'on offre depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement, un livre à tous les bébés qui naissent à l'hôpital de Manos ou qui sont adoptés à Manos. Donc il y a une culture aussi à l'hôpital, à la maternité, des soignants, autour de ce livre. Donc,
ce sont des livres que vous choisissez vous-même, votre service, ou alors l'hôpital, comment...
On le choisit conjointement. D'accord. On a un très beau projet là cette année, puisqu'on a reçu Ramona Badescu, une autrice en résidence, qui vient depuis un an à Manosque tous les mois, et qui suit trois familles qui ont reçu une naissance à l'automne dernier. Elle finit son livre maintenant, et qui est en train de créer un livre autour de la première année d'un bébé et la nature autour de Manosque, les quatre saisons de la nature autour de Manosque. Et ça va être un très joli livre édité par un super éditeur jeunesse qui s'appelle Les Grandes Personnes, et qui donc sera un livre créé à Manosque, avec des familles de Manosque, avec la nature de Manosque.
Avec une triple naissance, donc un bébé, la nature et un livre.
Voilà.
Voilà, donc ça c'est assez fantastique. Dans vos activités, j'allais dire quasiment quotidiennes, il y a aussi la littérature, les livres que vous amenez dans les quartiers à Manosque avec cette bibliothèque de rue.
Oui, les bibliothèques de rue, ce sont un peu les actions fondatrices de l'association. Il y a maintenant presque 30 ans, vous l'avez dit, sur le modèle à ce moment-là d'ATD Carmonde qui avait un peu innové sur ce plan-là. Et donc on va depuis plus de 25 ans dans 6 quartiers de Manosque tous les mercredis matin ou après-midi maintenant, avec un principe assez simple, c'est des jolis tapis, des jolies caisses et des très bons livres à l'intérieur de ces caisses, et une équipe de bénévoles de choc qui propose une heure de plaisir et de liberté avec les livres et avec les enfants. Les enfants peuvent venir 5 minutes, 1 heure, lire tout seul, se faire lire une histoire, emprunter un livre. Et on continue ça, donc dans des quartiers de Manosque. Et puis cette année, il y a quand même quelques nouveautés. On ouvre une bibliothèque de rue au parc de Drouille le mercredi après-midi. Donc c'est plus vraiment un quartier, c'est plutôt un carrefour, puisqu'il y a beaucoup de familles et beaucoup de mixité dans ce parc. Et puis aussi au quartier de la Trinque d'Isnard, c'est récent.
Vous avez cité l'action des bénévoles, beaucoup de bénévoles, vous êtes vous-même professionnel, il y a aussi Virginie qui vous accompagne, Virginie Gontran.
Et Caroline.
Mais ces bénévoles, alors moi je les appelle avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, parfois des grands-mères professionnelles, elles racontent ces histoires d'une manière très, très poignante, et en même temps on retrouve notre âme d'enfant quand on en a gardé une, lorsqu'on les écoute, c'est assez fantastique, assez super. Il y a aussi beaucoup de travail sur les arts plastiques. Il y a notamment lors de la fête du livre jeunesse, avec des illustratrices et des illustrateurs que vous invitez. Il y a toute une dynamique sur l'attirance par le biais de l'image vers la lecture et donc vers un monde imaginaire.
Oui, parce que l'album dans la littérature jeunesse, surtout en France, il est extrêmement riche. L'image et le texte sont à même, sont aussi importants. On est plus, la littérature jeunesse a beaucoup changé depuis les années 70, où avant on avait un texte avec plus ou moins de valeur et puis une illustration qui collait bien au texte, la plus réelle possible. On pense à Martine, etc., qui ont eu des vertus aussi hein, auprès de la jeunesse à ce moment-là. La littérature jeunesse est complètement déployée avec des artistes, vraiment des artistes plastiques, des illustrateurs qui sont parfois auteurs ou pas. Mais l'image dans l'album littérature jeunesse est vraiment extrêmement riche. Du coup, nous, on a la chance de pouvoir les inviter pendant la fête du livre, pendant les correspondances. Et là, ils transmettent aux enfants leur expérience de créateur, mais aussi leur expérience plastique. Ils transmettent leur technique. Et on fait beaucoup d'ateliers pendant la fête du livre, pendant l'année, pendant les correspondances, où des auteurs illustrateurs, autrice, illustratrice, c'est compliqué maintenant. peuvent
ils sont là,
partager ça
pinceau
avec les
à la
enfants.
Main, avec ouais. feutre, crayon de couleur, etc.
Ciseaux, tout.
Et en avant, et ça cogite, et ça crée. Et c'est ouais. une excellente chose. Vous avez parlé de la fête du livre jeunesse. C'est aussi un événement important pour vous. C'est au mois de mai, avec une association. Vous avez rompu les barrières départementales et communautaires, puisque vous travaillez avec une association de Fort-Calquier. C'est une excellente chose et c'est une belle association, Croque-Livre. Cette volonté aussi de travailler ensemble avec d'autres personnalités, d'autres structures, je pense les correspondances bien sûr, mais Croque-Livre, c'est dans vos gènes aussi?
Ah oui, je crois. Le travail en partenariat est vraiment dans les gènes d'Éclat de Lire. Je pense que c'est ce qui fait notre force, de travailler avec les médiathèques, avec les associations, avec le centre de l'enfance, avec
la maison des jeunes,
le CADA, ouais. la maison des jeunes, les correspondances, et bien sûr Croque-Livre à Fort-Calquier, où on mutualise vraiment, où on pense la fête ensemble au mois de mai, on la pense, on choisit nos invités ensemble, et puis ça mutualise aussi les moyens, bien sûr, d'inviter des personnes à deux structures, ça partage pas mal de choses.
Alors, si vous avez raté la fête du livre jeunesse, c'était au mois de mai, mais vous pourrez vous rattraper pour le 30e anniversaire d'Éclat de Lire, ce sera l'année prochaine, donc nous vous tiendrons au courant, bien évidemment. Pour l'heure, c'est les correspondances qui démarrent, et vous êtes sur la brèche, Laetitia.
Ah ben oui, on est à fond, hein, comme Evelyne, et toutes les équipes. Oui, oui, les correspondances, pour nous, c'était une évidence depuis le départ, hein. On existait avant que les correspondances arrivent à Manosque, un événement littéraire qui arrivait à Manosque, c'était évidemment, il fallait absolument qu'on se rencontre et qu'on fasse couple. Voilà, donc les correspondances ne sont pas célibataires.
On a déjà une explication, c'est super. Où est-ce que vous serez, Laetitia, avec vos amis pendant...
Alors, on va être un peu partout.
Dès cet après-midi.
Dès cet après-midi. Alors, Evelyne a dit le festival des correspondances commence ce soir à 17h. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Elle a oublié que depuis 3 ans, ils nous ont fait une magnifique place. Place Pagnole. On ouvre les correspondances avec une lecture, un solo avec Edith Azam, qui est une poétesse reconnue, qui a publié dans une maison d'édition qu'on aime beaucoup ici, parce que c'est une maison marseillaise et qui est une maison de qualité, qui est édition Le Port à Jauny, les poèmes en pluche. Et elle va donner cette lecture, ce solo de lecture de poésie, cet après-midi à 15h30 sur la place Pagnole, pour toutes les enfants et les familles, c'est à partir de 4 ans.
En attendant donc l'inauguration officielle des correspondances à 17h.
Exactement. Ce sont aussi des ateliers avec des illustrateurs, justement, des ateliers sur l'esplanade François Mitterrand. On a un espace que les correspondances nous concoctent, qui est un chouette espace. Il y fait un peu chaud, mais on a une belle bulle.
Et c'est bulle. Très aéré, en plus.
En cas de pluie, c'est préférable. Absolument. Alors que sur les places.
Et là, sur cette esplanade, à partir de cet après-midi aussi, on a un duo de choc, Jérémy Fischer et Marine Rivoal, qui sont deux talentueux illustrateurs, auteurs. Jérémy Fischer a été un de nos résidents il y a 8 ans. Et figurez-vous qu'ils nous font la joie et l'honneur, tous les deux, parce que c'est un couple, de s'installer et de devenir définitivement manosquins. Et du coup, c'était vraiment un cadeau de bienvenue pour eux, mais aussi pour nous, de leur proposer d'animer cet espace jeunesse sur l'esplanade François Mitterrand, donc à partir de cet après-midi jusqu'à samedi fin de journée.
Ils installent donc leur atelier à Manosque, vous avez dit. Là, oui. C'est une idée de reportage pour moi. Donc, c'est
ils s'installent, ils viennent vivre à Manosque.
Ah, voilà. C'est très bien.
Donc, ils sont installés depuis le mois d'août et puis ils ont un atelier pas loin de Manosque.
Ils créent ici. Voilà. Parfait.
Il y a encore bien d'autres choses. On a aussi, c'est l'occasion, les correspondances d'accueillir notre résident qui vient pour 3 mois. Résider à Manosque et donc créer et aussi rencontrer du jeune public et des enfants. Donc Romain Bernard, jeune illustrateur, graphiste talentueux, dont nous avons lancé la résidence hier soir et qui expose à l'Hôtel Raffin, au Centre culturel et littéraire, pendant toutes les correspondances et qui animera des ateliers aussi en scolaire. C'est aussi l'occasion du lancement du prix littéraire des adolescents. Vendredi matin, avec 2 scènes aussi qui nous sont offertes et ouvertes par les correspondances. Place de l'hôtel de ville Yamen Manaï,
ouais.
Avec son roman Bel Abîme. Et sur la place Pagnole, Sébastien Joannès avec un roman qui s'appelle « J'ai supermarché sur la lune ». Et on attend de part et d'autre, plus de chaque côté, 150 collégiens et lycéens de Manosque et d'ailleurs, qui vont se lancer dans le prix littéraire et lire toute l'année jusqu'à la fête du livre. C'est aussi...
Infographiste.
Bien sûr, c'est aussi une animation. Alors tout ça, c'est proposé aux scolaires, mais aussi... Au grand public, le mercredi et le samedi. On a aussi un faux-graphiste qui arrive cette
semaine. Comment vous dites?
Il s'appelle infographiste.
F-A-U-X,
graphiste.
Voilà, donc c'est, voilà. La radio est difficile pour ça. Voilà. Les jeux de mots sont pas sonores parfois.
Et là, je pense que c'est un atelier qui va beaucoup plaire aux jeunes, mais aussi aux adultes, qui sera dans la cour de l'hôtel Raffin, centre culturel et littéraire. Et c'est entre la BD et le détournement d'images, c'est plein d'humour. Vous allez pouvoir, il a tout un stock de photos d'archives et de bulles, et on détourne les images et on rit bien, je pense, avec Gilles, le faux graphiste. Voilà, des spectacles aussi, en coproduction, bien sûr, avec les correspondants.
Qui sont très prisés par le public, visiblement. C'est quasiment plein.
Mais tout est plein. Hein, tout est plein. Cette année pour les correspondants. On a un spectacle, alors là, c'est une petite innovation. Le jeudi matin, on a toujours un grand spectacle qu'on propose aux scolaires. Et là, on a proposé aux correspondances quelque chose d'un peu particulier, qui est un spectacle de circassiens, mais autour de livres. Ça s'appelle « Enlivrez-vous ». Et donc, c'est 2 circassiens et des livres sur scène. Et là, on a été inondés de demandes. On a accepté 600 scolaires. On aurait pu en accepter presque le double. voilà. Et puis, un spectacle aussi pour les petits maternels, en même moment... avec un duo de littérature jeunesse qui est assez connu, qui réside à Marseille en plus. Ce sont Ramadier et Bourgeot qui viennent présenter un petit spectacle pour les tout-petits. Je précise juste une chose, parce que pour nous c'est important, sur le prix littéraire des adolescents, il y a un des débats, donc avec les collégiens lycéens, sur la place de l'Hôtel de Ville, qui sera traduit par 2 interprètes en langue des signes française.
C'est parfait. Et puis, on sent bien qu'il y a une dynamique et puis une présence qui est forte à Manos de votre association, et notamment pendant les correspondances. Alors, avant de retrouver pour évoquer le programme de cette édition, Evelyne Pravidlo, je vous propose d'écouter une interview de l'écrivain manosquin que vous connaissez bien toutes les deux. Il s'agit de René Frény. Minuit dans la ville des songes, c'est paru chez Gallimard, eh bien c'est la vie de René Frény, voix off et caméra à l'épaule, mais aussi toujours avec un livre en main. On suit l'écrivain depuis son enfance et adolescence marseillaise, entre Santon et Crèche avec sa tendre mère, mais aussi primo-délinquance et quartier mal famé, première virée à Londres en pleine révolution rock avant l'Espagne et le tournant de sa vie, convocation à l'armée à Verdun où le rebelle est mis au trou. Grâce à un ami d'enfance changé car il avait les mots, souligne-t-il, et un aumônier qui lui fait découvrir la littérature, Giono, Camus, Vian et Hemingway, il est marqué à vie. Puis après une parenthèse galante à Fort-Calquier, il est déclaré déserteur, il fuit la Corse, la Grèce et la Turquie pendant plusieurs années. Retour en France pour retrouver sa mère que son absence tourmente, c'est Manosque où deux guitares l'ensorcellent, avant Marseille où il est aide-soignant puis infirmier dans un hôpital psychiatrique. Fatigué de son enfance et de son errance, il met fin à sa fuite et se rend. Après 40 jours de prison au fort de Vincennes, il est libéré contre un an de prison avec sursis. Il va revivre. Minuit dans la ville des songes, c'est un beau livre, sommairement autobiographique et vraiment poétique. Dans une ville des songes que les lecteurs habitués à la plume de Frény reconnaîtront sans peine, je vous propose d'écouter l'auteur manosquin qui m'a accordé une interview avant de partir en région parisienne, recevoir le prix Malesherbes. René Frény, Minuit dans la ville des songes, paru chez Gallimard, c'est l'histoire de votre vie.
C'est l'histoire des plus grandes émotions de ma vie, donc c'est ma naissance à Marseille et toutes les grandes émotions que j'ai ressenties qui ont traversé mon corps jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai un certain âge et des grandes émotions, Dieu sait que j'en ai connu. Quand je dis grandes émotions, c'est toutes les grandes peurs, tous les grands désirs, tous les grands espoirs que j'ai eus dans ma vie. D'abord la naissance de mes deux filles, c'est incroyable de se retrouver derrière la vitre dans la nurserie et de voir un bébé de 50 cm qui vient de naître 20 minutes plus tôt, j'ai pas vu un seul papa qui ne pleure pas à ce moment-là. Surtout quand on entre dans la nurserie et qu'on vous permet de passer les mains comme ça par les ouvertures de ce berceau en plexiglas et de mettre, j'ai mis mes deux mains sur le ventre de mon bébé, de ma fille Marie-Lou qui hurlait parce qu'elle était née par césarienne. Elle était pourpre, aubergine. Elle hurle. J'ai mis mes mains sur son ventre et elle s'est calmée. Enfin, j'ai éclaté en sanglots. C'est des souvenirs extraordinaires. La mort de ma maman qui est bien sûr le moment le plus noir de ma vie ici à Manosque, mais à deux étages près, ma fille est née au dernier étage dans la maternité et deux étages plus bas, un an plus tard, ma mère est morte. Donc quand on me demande quel est le bâtiment le plus important de ma vie, c'est ni le Colisée, ni la Tour Eiffel, ni la Tour de Pise, c'est l'hôpital de Manosque, l'hôpital public où ma fille est née et où ma mère est morte. Donc voilà ce que j'appelle les grandes émotions d'une vie. J'ai raconté quelques passions et puis surtout ma passion pour l'écriture, le jour où j'ai découvert l'écriture dans une cellule de prison, la lecture et l'écriture, et où, oui, c'est comme si le directeur m'avait donné les clés de la prison. Je suis parti en voyage, et les 6 mois de prison sont passés assez vite, parce que je passais 8 heures par jour à lire et à écrire. Sans ce séjour en prison, je ne serais jamais devenu écrivain. Donc c'est ce que je raconte dans ce livre, à la fois mon premier livre ouvert, tu ouvres un livre comme on monte sur un bateau ou dans un train, et je suis parti en voyage. Il y a 50 ans que je voyage à la fois dans les collines de Manosque et en ouvrant un livre. Et quand je pars avec un livre de Giono dans la poche, je fais ce double voyage. Il m'arrive de m'adosser à un cerisier, à un amandier sur les collines. Je lis le Hussard sur le toit, et j'ai le paysage sous mes yeux que Giono décrit, et en même temps, je me demande lequel est le plus beau. Si c'est la cuvette de Manosque où sont en bas les colériques et puis les gens qui sont réfugiés dans les collines, si c'est le livre ou si c'est le paysage réel. Parce que c'est très très dur de faire plus beau que les paysages autour de Manosque. Et parfois, Giono y arrive et dépasse le paysage réel. Donc il y a ce double paysage devant mes yeux qui se superpose, le paysage de la littérature et le paysage réel.
René Frény, vous savez que je vous connais bien, je connais bien aussi votre œuvre. On apprend dans Minuit et la ville des songes pas mal de choses sur vous. Et on apprend par exemple que non, le premier livre, c'était pas Colline, c'était la biographie de Lucky Luciano.
Mais quand on est minot à Marseille et comme moi on ne va pas à l'école, puisque les enfants se moquaient de mes yeux, m'appelaient quatre œils, j'étais toujours dans la rue. Je détestais l'école. L'école, c'était une salle de torture. Je ne supportais pas l'école, donc je traînais avec tous les garnements de Marseille. Et nous étions fascinés, quand on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, par les footballeurs et les grands truands marseillais. Alors à l'époque, c'était la famille Guérini, c'était Gégène Le Manchot, c'était Venturi. C'est pour nous, c'était des idoles parce que ils étaient capables d'entrer dans les banques, de prendre l'argent. Et donc Lucky Luciano, qui était le plus grand truand américain, sicilien, établi à New York, pour nous, c'était les grandes références. On ne savait même pas qui était le maire de Marseille, on ne savait pas qui était le premier ministre, on ne savait même pas qui était le président de la République, mais on connaissait tous les joueurs de foot de l'OM, et on connaissait par leur prénom tous les gros voyous marseillais. Parce que quand on est dans la rue, quand on ne va pas à l'école, on est persuadé qu'on ne deviendra pas enseignant, qu'on ne deviendra pas avocat, qu'on ne deviendra pas notaire. On se dit, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'être footballeur, boxeur ou voyou. C'était la seule alternative. Donc quand j'ai lu la vie romanesque de Lucky Luciano, je me suis dit, je veux devenir Lucky Luciano.
Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à Manosque une fois que vous êtes adulte, à un endroit qui s'appelle Les Deux Guitares et que certains manosquins ont évidemment connu, qui est un endroit qui est tenu, entre guillemets, par la pègre marseillaise où personne ne viendra vous embêter puisque vous êtes en fuite, vous êtes déserteur. Et donc là, vous avez une partie de votre vie qui s'écrit, et c'est le cas de le dire, puisque vous devenez le professeur des Deux Guitares.
Et oui, parce que j'ai déserté l'armée, je me suis évadé de cette prison, fin 67. Je me suis planqué pendant un peu plus d'un an à Bastia. J'étais disjoqué dans une boîte de nuit jusqu'à ce que la gendarmerie retrouve ma trace. Donc je suis parti un peu à Istanbul et ma mère me manquait tellement, la langue française, la langue maternelle et surtout ma mère, la serrer dans mes bras, lui dire maman, lui dire je t'aime. Je suis revenu, mais j'étais toujours recherché et condamné par défaut à 3 ans de prison. Donc je me suis réfugié à Manosque, que je connaissais un peu. J'habitais dans un grenier, dans la rue Grande, passage du contrôle, au dernier étage. Et le matin, j'allais prendre mon café au lait. Je prenais pas de café parce que j'avais peu d'argent. Et je trouvais le café au lait beaucoup plus nourrissant parce qu'il y avait du lait. Et je buvais mon café au lait aux Deux Guitares, qui étaient, comme vous dites, le repère de tous les gros truands marseillais les plus gros, puisque Gaëtan Sampa et son demi-frère Jeannot aussi venaient là boire des coups tous les jours. C'était un bar en contreplaqué. C'est le bar le plus laid que j'ai vu de ma vie. Et en même temps, c'était le plus romanesque parce qu'il y avait les plus gros truands marseillais. Et c'était tenu par un vieux couple de Corse. Le mec était sorti il n'y a pas très longtemps de prison. Et donc, tous les gros truands passaient là, surtout quand ils étaient interdits de séjour à Marseille. Et comme à l'époque, Manosque, comme Pertuis, étaient des villes ouvertes, des villes où les truands avaient le droit d'aller, ils s'étaient réfugiés ici. Ils habitaient tous les deux, Zampa et son demi-frère, avenue de la gare, et c'est là que j'ai connu les jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans, qui allaient devenir les plus gros voyous de Manosque, et qui ont été finalement recrutés par Gaëtan Zampa et son frère. Et je suis devenu, comme vous dites, le professeur, parce que toutes les filles de l'époque qui n'allaient pas au lycée, qui n'avaient pas envie d'étudier, me disaient « on te voit toujours lire, tu as toujours un livre dans la main, aide-nous à faire une dissertation ». Et non seulement je les aidais, mais je faisais moi-même les dissertations, j'avais de très bonnes notes, et en échange, je demandais simplement le plat du jour. Elles me payaient le plat du jour. Comme je n'avais pas de salaire, pas de revenus, j'étais recherché, tous les jours, je faisais une dissertation et je gagnais mon plat du jour aux Deux Guitares. Parfois au Grand Paris, parfois au Glacier, selon les jours. Donc je changeais de table, mais tous les jours, pendant des mois et des mois, comme je lisais Freud, comme je lisais Lacan, comme je lisais Trotsky, comme je lisais Nietzsche, comme je lisais Giono, elle me voyait toujours un livre à la main, donc j'arrivais à réussir, moi qui n'avais pas le bac, qui avait échoué au BEPC, j'arrivais à réussir d'assez belles petites dissertations qui me valaient le plat du jour.
Avec une vue sur votre vie depuis toute l'errance, l'enfance marseillaise, puis après cette arrivée à Manosque, évidemment la désertion et bien sûr le contact avec l'armée tout d'abord à Verdun, la prison, le trou, hein, comme vous dites, et toute cette errance qui finit par arriver tout simplement au pied du Mont d'Or, à Manosque, où vous commencez à écrire et à vous dire « tiens, je pourrais faire ce métier ».
Oui, j'avais envie d'écrire, mais je m'en sentais pas capable. Et comme les bibliothécaires de l'époque, la bibliothèque n'était pas où elle est actuellement, me disaient, mais vous prenez tous les livres de Giono, vous ne lisez que Giono. Je dis, non, je ne lis pas que Giono, mais c'est peut-être mon écrivain préféré. Et elles m'ont dit, mais allez le voir, dites-le lui, il habite. Et elles m'ont dit où il habitait, au bout de cette impasse, au bord du canal. Je suis donc monté voir le Paraïs. Mais je n'ai pas osé taper à la porte de Giono, parce que pour moi, c'était peut-être le plus grand, c'était un génie de cette musique des mots, de ce vocabulaire, de cette invention. Je trouvais que cet homme recréait le monde mieux que quiconque. J'ai regardé le jardin par une fente de la porte, et j'ai vu une fontaine avec une espèce de joufflu qui crachait de l'eau sur des nénuphars, des palmiers. J'ai trouvé ce jardin très beau, et je n'ai pas osé frapper à la porte. Je suis reparti vers Manosque, mais sans regret. Et un mois plus tard, Giono est mort. Il est mort en octobre 67, et donc j'ai dû monter là-haut à la mi-septembre.
Et vous dites ne pas regretter de ne pas l'avoir dérangé.
En octobre 70, pardon, je me suis planté. Il est mort en octobre 70, et je ne regrette pas de ne pas l'avoir dérangé, parce que maintenant je côtoie tous les écrivains français, même étrangers, et je trouve que pour la plupart d'entre eux, leur œuvre est supérieure à ce qu'ils sont. Et peut-être que j'aurais été un peu déçu par Giono, peut-être pas, mais je n'ai jamais été déçu par un de ses chapitres. Et peut-être que l'homme m'aurait paru moins haut que son œuvre.
Donc il faut rester dans ce que vous n'avez pas vécu, mais ce que vous avez lu, évidemment. Il y a dans toute votre œuvre, René Frény, cette magie des mots particulière que vous utilisez très souvent. Et moi, il y a un mot qui m'a plu et une expression magnifique sur un objet qui vous a suivi pendant toute cette errance, c'est votre duvet. Et vous dites, le duvet, c'est le doudou des vagabonds.
Mais c'est ce que j'avais de plus cher, de plus précieux. J'avais un sac marin et dedans il y avait ce duvet. Mais un duvet, bien sûr, à l'époque était vraiment rempli de duvet. Et au fil des chemins, il y avait des petits trous qui se formaient dans le duvet et je perdais des plumes, je perdais du duvet. Et à la fin, mon duvet n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'y avait plus que la housse du duvet, mais il avait perdu 90% de son duvet. Donc je n'avais même plus chaud dans son duvet et c'était quand même mon doudou. Comme un doudou que l'on a sucé, mordu durant toute son enfance, il n'y a presque plus rien, mais c'est la chose la plus précieuse qu'on ait quand on est enfant. Et sur la route, le duvet, c'est la chose la plus protectrice, c'est comme le ventre d'une maman, c'est comme la douceur d'une maman. On m'aurait volé mon duvet, je crois que j'aurais éclaté en sanglots.
Vous êtes en présentation de Minuit dans la ville des songes, pendant les correspondances à Manosque. Vous avez un petit peu une appréhension de présenter votre livre dans cette ville des songes?
C'est le seul endroit où j'ai un peu le trac parce que les gens me connaissent. Je bois le café avec tout le monde, je bavarde avec tout le monde. Il y a des anecdotes que j'ai déjà racontées et parfois je les raconte pour la énième fois. Et puis devant nos amis, devant notre famille, on est un peu plus gêné parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Là, j'arrive du Haut-Quercy, puis je vais partir à Chambéry. Ensuite, je monte à Paris dimanche. Je connais pas les gens à qui je m'adresse, même si je fais une bourde, c'est pas très grave, le vent emporte tout. Mais devant nos proches, on est toujours moins rassuré. Moi, je me dis toujours, tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que il y a ta famille, là, et tu risques de les vexer, ou tu risques de... Voilà. Donc, c'est le seul endroit, même quand je passe à la télévision, je n'ai pas le trac, ni à la grande librairie, ni à France Inter... Pourtant, ma famille me regarde, mais la place de Manosque, pour moi, c'est-à-dire mon jardin, c'est terrible, parce que tu reconnais tous les regards, tu vois des yeux que tu connais. Il n'y a rien de pire que de reconnaître les regards qui te regardent et qui t'analysent et qui te jugent, alors que quand une caméra à la grande librairie est devant toi, enfin, c'est qu'une caméra.
René Frény, sans trac, sur la place Marcel Pagnol à Manosque, dans le cadre des correspondances. Evelyne Pravidelot, on peut dire aussi que René Frény est un habitué des correspondances?
Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une mascotte, mais presque. En tout cas, dès que... le festival, comme vous le savez, a une programmation qui est vraiment ciblée autour de la rentrée littéraire. Donc... dès que René sort un livre en septembre, il est évidemment invité aux correspondances. Bon, là, le livre est sorti au printemps, mais on ne pouvait pas ne pas inviter René Frény. Enfin, voilà, c'est pas possible, quoi. Dès que René Frény sort un livre, nous l'invitons.
Et c'est un
compteur... une exception, c'est une petite dérogation. C'est comme nous avons permis... Non, permis, le mot est un peu fort. Mais nous étions presque contents qu'Éclat de Lire nous propose un spectacle un peu décalé cette année demain matin.
Donc c'est bien, et puis c'est aussi un compteur, mieux, un compteur né, et donc lisez.
C'est vraiment l'auteur, je veux dire, il y a eu Giono et il y a René Frény.
Oui.
Bon, pardon, la famille Magnan va peut-être me... Pierre ouais. Magnan, hein.
Pierre Magnan avait un pied à Manosque aussi,
mais
quand même.
Après Giono, René Frény.
Oui, oui, oui. Non, et puis c'est un personnage attachant qu'on connaît fort bien,
très,
vous en doutez
attachant.
Ici même.
Très attachant.
Et puis quelle plume! Quelle plume, quel conteur, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il sera, je pense, très suivi demain
absolument.
À place Marcel Pagnol. Evelyne, on a un petit peu de temps pour avoir quelques noms d'auteurs et d'autrices qui seront dans les murs manosquins ces jours-ci.
Sur les places manosquines.
Et dans les rues aussi.
dans les
rues.
Sur les places. Ouais. Alors, cette année, il faut dire que c'est une rentrée très, très riche, très éclectique. Très éclectique, très varié, beaucoup, beaucoup de premiers romans, très peu de têtes d'affiche, disent certains. Alors, c'est vrai que c'est une année où il n'y a pas 15 auteurs hyper connus qui ont sorti des livres. Bon, enfin, il y a tout de même Virginie Despentes, personne, ça n'aura échappé à personne. Alain Mabankou, Yannick Enel, voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de plaisir à lire parce qu'on a eu énormément de plaisir à découvrir beaucoup d'auteurs. Et nous recevons une dizaine de primo-romanciers, comme on dit affreusement. On a eu des vrais coups de cœur pour certains premiers romans. Alors je citerai Polina Panasenko, Tenir sa langue aux éditions de l'Olivier, Claire Baglin qui est toute jeune, En salle aux éditions Minuit, Maria Larrea aux éditions Grasset, Dominique Sélis, un livre mais incroyable. Alors Dominique Sélis, elle est belgo-rwandaise. Je dirais juste deux mots sur ce livre parce que publié chez Philippe Ray, qui quand même depuis quelques années a une production très très florissante et puis primée puisqu'il a eu le Goncourt l'année dernière. C'était un petit éditeur assez discret qui maintenant est vraiment repéré. Ça fait plaisir. Et bref, Dominique Sélis, Ainsi pleurent nos hommes. Raconte la rupture, une rupture amoureuse. C'est un livre épistolaire, c'est un roman épistolaire. Et une jeune femme qui vient de se séparer de son compagnon écrit à sa sœur pour ne pas complètement sombrer. Et à travers elle raconte le manque d'amour, l'absence d'amour, l'absence du désir, la disparition de cet amour qui emplissait sa vie. Mais bien sûr, elle en profite puisqu'elle est rwandaise et elle vit à Kigali pour évoquer le génocide. Et elle évoque le génocide à travers les personnages qui sont les amis des uns ou des autres. Enfin, quand je dis les amis, aussi les faux amis. Et c'est un livre d'une part bouleversant, mais avec un langage parfois très cru. Et elle mélange à la fois sûrement la couleur de la langue de Kigali, un français extrêmement châtié. Enfin, c'est un livre complètement étonnant. Au début de la lecture, on est complètement désemparé. Et puis, on se glisse dans la peau de ce personnage. Enfin, vraiment. Donc voilà, encore un premier roman.
C'est une écrivaine qui a promis un bel avenir.
Là, je suppose. Je pense qu'elle en écrira d'autres. C'est Gaël Faye qui l'a recommandé. Bon, alors j'espère que...
Un bon parrain.
Voilà.
C'était
un jeune et talentueux parrain. Toujours dans les premiers romans, un livre qui a été très remarqué d'Anthony Passeron. Les enfants endormis, qui est un livre sur le sida. Donc l'auteur, c'est assez autobiographique puisqu'il raconte la mort de son oncle, qu'il n'a évidemment pas connu, qui est mort du sida parce qu'il était héroïnomane. Et donc faut imaginer ce que c'était dans l'arrière-pays niçois, dans une famille qui était au départ très très modeste et puis qui est devenue la super boucherie du village. Et donc ils sont devenus un petit peu... ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais c'est devenu un peu d'une classe moyenne supérieure. Et tout d'un coup, ce gamin-là, le fils aîné, a le sida, se marie avec une nana qui, évidemment, a le sida, qui est enceinte, et la petite aussi va avoir le sida. Donc c'est un bouleversement, mais c'est un tsunami. On n'utilisait pas ces mots-là dans les années 70. Et donc, il raconte ce sida qui arrive dans cette famille... Et l'incompréhension, et puis petit à petit, et un accompagnement d'amour aussi, et il entrelace avec ce qui s'est passé scientifiquement, c'est-à-dire toute l'histoire de la recherche des médecins, des scientifiques français. Donc on retrouve des noms comme Montagnier, Françoise Barré, etc., etc. C'est passionnant. Et alors pour notre génération, on retrouve, c'est-à-dire on se remémore tout ce qui s'est passé. Pour la jeune génération, c'est passionnant de voir ce qui s'est passé il y a
découvrir,
finalement, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a été quand même un événement bien plus atroce, enfin, pardon pour ce jugement personnel, mais que le Covid...
Chacun d'entre nous connaît oui, hélas, voilà, une ou plusieurs victimes du sida.
Oui, donc, c'est un très, très... Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment de très, très bons premiers romans, qu'on a une dizaine d'auteurs qu'on pourra écouter, découvrir à Manaus. Et bien sûr, on retrouve des auteurs qu'on accompagne depuis longtemps. Bon, bien sûr, Olivier Adam, il se fait qu'il sort un livre en septembre. Donc c'est tout sa place d'honneur à Olivier Adam, Alain Mabankou, comme je l'ai dit, Lola Lafont qui est venue, Alice Zéniter, Pierre Ducrozet, nos anciens résidents. Donc finalement nous accompagnons, comme nous avons accompagné il y a 24 ans une génération d'écrivains qui était en train d'éclore, Maëlys de Kerangal, Arnaud Catherine, ces gens-là, aujourd'hui nous accompagnons. Et c'est un vrai bonheur, une jeune génération d'écrivains qui prend... Voilà, c'est normal. La vie continue et les correspondances continuent avec cette littérature vivante.
Avec très souvent, en plus, le flair de votre comité de sélection qui fait que Hervé Le Tellier, tout d'un coup, il a eu le Goncourt.
Jonathan Little,
par exemple,
le seul festival où il s'est montré... Ce fut les correspondances de Manos.
Il n'était pas très à l'aise la place de l'hôtel.
Oui, il était pas super à l'aise. Bref, il a eu le Goncourt. Qui eût imaginé qu'il aurait le Goncourt avec ce livre-là ?
Avec les bienveillants.
Non, mais souvent, l'année dernière, je crois qu'on a eu le Grand Chelem l'année dernière. Bon, nous verrons. L'année dernière, nous avons eu peu de prix. Mais il y a deux ans, on a eu le Grand Chelem. Je crois qu'on a tout eu.
Il y a eu pas mal de choses avec les prix Fémina, etc. Beaucoup de choses. En tout cas, c'est une belle programmation qui respecte l'alphabet, puisqu'on passe de Adam à Zéniter avec un tas d'échelles et d'échelons magnifiques. Donc, les correspondances pendant 4 jours sur Manos, que ça va swinger, ça va chauffer, ça va parler, ça va lire.
Décoiffer.
Évidemment. Et puis, c'est du travail pour vous. Évidemment, pendant un an, toute l'année, vous travaillez sur... Vous devez déjà d'ailleurs commencer à travailler sur l'édition 2023 qui...
On va peut-être attendre la fin du festival quand même.
On va fêter vos 25 ans l'année prochaine.
Oui, l'année prochaine, donc, c'est 25 aussi, ans. Donc on va essayer de préparer une édition...
spéciale.
Extraordinaire.
Le quart de siècle des correspondances. Ouais. Et puis ce sera le 30e anniversaire aussi d'Éclat de lire. Donc vous rendez compte. Et puis vous savez quoi aussi ? Je vais rajouter ma petite note. Ce sera les 40 ans de Fréquence Mistral aussi. Ça nous fait beaucoup tout ça. Hein. Ça fait combien ? 40 plus 25 plus 30. Bon.
On ne les fait pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est un bonheur de vous recevoir toutes les deux et puis bien sûr de vivre ce festival des correspondances. Je vous remercie d'avoir pris un petit peu de votre temps avant l'effervescence du festival. L'inauguration officielle, je dis bien officielle, c'est à 17h tout à l'heure, place de l'Hôtel de Ville, avec les discours de circonstances, etc. Et puis, pour ma part, ici même, tous les jours, vous le savez, à 10h, on recevra des auteurs, des comédiens, enfin bref, des invités. Demain, j'aurai le plaisir d'accueillir Mona Messine et puis Miguel Bonnefoy. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir Mr. President, Didier Lebret, qui est le président des correspondances. Nous parlerons aussi du karaoké littéraire de Raphaël France Kuhlmann. Et puis nous entendrons l'écrivaine Sarah Masson, qui est en résidence actuellement à Gréoux-les-Bains. Je profite aussi de remercier à la régie notre ami Olivier pour tout le travail qui est fait en amont et que vous pourrez retrouver bien sûr sur notre site internet, reportage, interview, l'émission en direct et des photos bien évidemment. Bon festival à tous, à demain, ici même, 10h.
Merci François.
Merci
beaucoup.